détente sur Présence, et c'est le moment du cinéma, avec N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à nos deux invités et bonsoir à tous nos auditeurs.
Ben oui. Comment allez-vous Laurent?
Un peu essoufflé.
Oui. Et vous ne devriez pas courir. Hein.
Il y a des sacrés escaliers quand même.
Oui, c'est ça, mais comme vous les montez 5 fois pour les redescendre 5 fois, ça fait compliqué tout ça. Hein.
C'est ça.
Oui, alors ce soir, la question rituelle ne sera pas posée.
Tout
puisque
à fait.
Ce numéro de N'oubliez pas l'ouvreuse est spécial puisqu'on revient sur ce qui s'est passé en 2025 du point de vue du cinéma, bien sûr.
Oui, on va archiver 2025, on a sorti les cartons d'archives, voilà. Le gros feutre noir et on va archiver tout ça. Hein.
Exactement. De quoi vous nous parlerez, nous parlerez-vous? Ouais, je ne sais plus comment parler maintenant.
Bon, on fera un petit bilan sur l'année 2025 qui n'a pas été grandiose, il faut le dire, les professionnels s'accordent là-dessus. Voilà, il y aura un petit box-office, les meilleures sorties, les plus gros succès. On aura un petit regret pour les acteurs, actrices et réalisateurs et réalisatrices qui nous ont quittés. On passera à eux quand même peut-être une dernière fois en attendant de les revoir sur les grands écrans.
C'est l'avantage. Enfin, l'avantage.
Et oui, on est immortel quand on est sur une bobine de fil.
Et effectivement. Effectivement, je dis l'avantage. C'est pas un avantage puisque de toute façon.
On va tous y passer. Hein.
Voilà. Je ne sais pas. De temps en temps, il a. Mais vous savez, ici, il
des
s'amuse.
Choses mystérieuses. À moins est-ce que Donald Trump ait attaqué Toulouse.
On s'amuse à réparer les différents studios dans la journée. Et en général, on oublie toujours un bouton.
Mais Guillaume est passé par là, mais bon, on va revoir la mécanique.
Et voilà, exactement.
On l'embrasse d'ailleurs, notre Guillaume.
Puisqu'il est malade.
Il est alité, comme disait Johnny. Johnny alité. Ah, encore une coupure.
Non, et voilà. J'avoue que je suis sidéré. C'est toujours pareil. Hein.
On a oublié de changer les piles de la console, ouais, peut-être.
Effectivement. Et puis, il y aura Grégory Combe qui vous fera, cette fois-ci, notre homme de loi des séries, fera son top de l'année 2005, puisque vous savez qu'il avait...
2025, pardon,
puisqu'il nous avait déjà gratifié de ses flops. Ses flops, il avait eu la dent dure. Cette fois-ci, comme c'est les tops, eh bien, tout se passera bien, en tout cas, pour ce dont il va nous parler. Et puis, vous l'avez entendu, nous avons deux invités qui vont nous accompagner pendant toute cette émission, la crème de la critique cinéma toulousaine et régionale. Vanessa Archambault, qui œuvre pour Radio Esprit Occitanie, mais aussi pour le site Bulle de Culture. Bonsoir Vanessa.
Bonsoir Louis-Marie.
Comment allez-vous Vanessa?
Très bien, je suis ravie d'être là. Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Et puis avec nous également Joël Attard, Joël qui lui œuvre pour les fiches de Monsieur Cinéma. Bonsoir Joël.
Bonsoir tout le monde.
Comment allez-vous Joël?
Écoutez, je vais bien. Et vous?
Ah oui, ça va. Donc, mais il y a ces aléas. J'ose plus rien toucher parce que il va se passer un truc qui va encore aller de travers.
Ouais, le fil vert sur le bouton vert et le rouge sur le bouton rouge.
Ça va le rendre l'amoureux.
Alors, avant de vous demander à vous deux quels sont les films ou ce qui vous a marqué en 2025, je vous propose notre petit jeu habituel propre à cette émission rétrospective. Eh bien, je vais vous passer un montage de quatre films. Alors on commence par quatre films qui viennent d'ailleurs que la France, et vous allez essayer de deviner les titres de ces films, bien sûr. Êtes-vous prêts?
Oui, main oui. Sur le buzzer.
Main sur le buzzer. Et vous, chers auditeurs, vous êtes
transistor.
Là. Vous êtes prêts, vous aussi. Allez, c'est parti.
C'est de vous, n'est-ce pas?
Oui.
Tous?
Oui.
Pourquoi un architecte étranger, reconnu par ses pairs, se retrouve-t-il à pelleter du charbon à Philadelphie?
Malheureusement, Ce n'est pas aussi simple. Il y a eu une guerre. Et pourtant, la plupart de mes projets ont survécu.
Je tournais en rond et je voulais quitter la Terre.
Vous postulez pour devenir un remplaçable ?
Vous avez lu tout le formulaire.
Ouais. J'aurais dû tout lire.
Et que tu inspires toutes les particules microscopiques qui flottent autour de toi.
Tous les virus.
C'est bien.
Il y avait effectivement un virus inconnu dans l'air. Du genre mortel.
Les légendes racontent que certains ont le don de jouer une musique qui vient des tripes. Et qu'un tel talent peut convoquer les esprits du passé.
Will somebody take me?
Mais ce talent peut aussi déchirer le voile qui sépare la vie de la mort.
Alors tu vois, là, je prépare un circuit fermé. Tu vérifieras que la mort s'est bien reliée comme ça, histoire de pas déclencher l'explosion par erreur.
T'arrêtes pas. Sors-nous le grand jeu. C'est le coup d'envoi de la révolution. Et notre message est clair.
Oui, là, faut que tu comprennes que...
Ta mère et moi, on a foutu un sac d'émerguer dans le temps. Ils ont eu ta mère. Et maintenant, ils s'en prennent à nous. Je suis désolé.
J'en ai marre. La vie m'a vraiment distribué des dés pourris.
Des cartes pourries. On dit distribuer des cartes pourries.
Putain, papa, c'est quoi ton problème ?
T'as raison. On y va.
On y va, oui. On m'a distribué des dés pourris. Mais non, c'est des cartes, bien sûr. Alors, avez-vous trouvé... Alors, il se trouve que... Avez-vous trouvé les titres de ces films ? Je finis ma phrase. Et en plus, sont quatre films américains. Mais vous savez, la complexité de faire un tel montage, c'est que pour les films passionnants qui n'étaient pas en langue anglaise ou pas en français, c'est compliqué de trouver des VF. Parce que passer une bande-annonce ou un extrait en coréen, en japonais ou en hongrois, ça reste difficile pour vous, auditeurs. Oui. Ouais, y a pas, on n'a pas droit aux sous-titres.
En coréen, bande-annonce ? En carré une.
Alors, est-ce que vous avez...
Ça va être un festival de jeux de mots.
Oh là là, mais non, vous savez, ça va être redoutable. Plus les coupures, vous allez voir, ça va être génial.
Ah ouais, c'était top,
la coupure. C'est assez extraordinaire. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez trouvé, madame et messieurs, les titres de ces films ?
Le premier, oui.
Oui ?
Bah oui.
The Brutalist.
Oui, le film de Brady Corbett, l'histoire de cet architecte juif qui est né en Hongrie, Laszlo Toth, et qui, revenu d'un camp de concentration, émigre avec sa femme et, après la fin de la Seconde Guerre mondiale et finalement va réussir à construire quelques édifices. Et ça va être compliqué pour lui, très très compliqué.
Et qui a inspiré Valérie Donzelli pour son film.
Oui.
À pied d'œuvre.
Oui, c'est vrai. Et le film a sorti en début d'année, malgré la longueur, il était à plus de 3 heures.
Presque 3 heures, oui.
A réalisé finalement un score plus qu'honorable en France, puisqu'il il accroche, il est à 488 000 entrées, un peu plus, il est pas loin des 500 000. Alors ensuite
Mickey 17.
Oui, dans l'ordre, Mickey 17.
Oui. De Bong Joon-ho. Oh, oui, c'est un très très bon film d'ailleurs.
Avec Robert Pattinson.
Ouais. Alors qu'est-ce qui lui arrive, vous vous souvenez ?
Et le clone.
C'est un remplaçable.
C'est ça, ouais. Un remplaçable. Il va devoir affronter une nouvelle planète et on parle de virus, en fait à chaque fois qu'ils ont des nouveaux trucs à tester, c'est lui qui les teste.
Et il meurt.
Et 17, c'est la 17e version.
Voilà. Sauf du clone. À un moment donné, il y en a deux. Ensemble.
Ouais. C'est-à-dire que l'astuce dans le film, pour que les deux soient ensemble, c'est qu'ils sont persuadés qu'il est mort, parce qu'il est resté coincé avec une jambe cassée et tout, et en fait, il a survécu. Ouais. Donc, il a un autre clone de lui, et il y en a deux, alors que c'est impossible et interdit.
Oui,
qu'il y en ait deux.
Ça. Ça.
Avec Georges Clooney.
Et on a... Ah oui.
Il ne peut pas y avoir deux Louis-Marie, c'est pas possible.
Non, on ne reviendra jamais ailleurs.
Vous êtes drôle.
On a une petite Française dedans, Anna Maria Bartholomé.
Oui, oui, oui.
Alors, c'est vrai que c'est dommage parce qu'on ne la voit pas assez longtemps. Et il y a un moment où on voit disparaître son personnage. Mais j'ai trouvé son interaction avec Robert Pattinson et aussi l'autre actrice vraiment très intéressante.
Alors moi, j'ai une petite anecdote sur le metteur en scène.
Oui.
Figurez-vous que quand j'étais à Cannes, il venait d'assister à une séance. C'est la quinzaine des réalisateurs. Et le palais avait été décoré avec des magnifiques photos de comédiennes américaines des années 50-60. Et il est tombé en extase devant une photo d'Elizabeth Taylor dans Une place au soleil. Et j'ai pris la photo du metteur en scène Bong Joon-ho devant Elizabeth Taylor, et il a voulu absolument voir la photo, et donc je le lui ai montré, et il m'a donné son adresse mail pour que je lui adresse absolument la photo. C'est ce que j'ai fait, et j'ai eu un message de remerciement du metteur en scène, parce que voilà, il avait ce coup de foot pour Elizabeth Taylor, et on peut le comprendre.
Ah oui. Mais vous en vivez de belles choses.
C'est beau à la vie. Hein.
Ah oui.
Vous côtoyez des stars.
Ouais, ouais, ouais.
Mais Louis-Marie, régulièrement.
Ouais. Bong Joon-ho, non, on l'a pas encore rencontré. Hein.
Non. On maîtrise pas bien le coréen.
Oui, mais lui maîtrise l'anglais, mais est-ce qu'il viendra à Toulouse, oui. C'est une autre histoire.
Le troisième film.
Sinners,
oui, de Ryan Coogler. Là aussi, c'est un film particulier, un peu étrange, hein, qui commence comme un thriller, un historique. Histoire traditionnelle, hein, l'histoire de jumeaux, Elijah et Elias, incarnés tous les deux par Michael B. Jordan, et pour cause, puisque c'est des vrais jumeaux. Très belle performance. On est dans les années 30, durant la Prohibition. Ils reviennent tous les deux de Chicago, dans leur ville natale du Mississippi, pour refaire leur vie. Ils ouvrent un bar où on va pratiquer cette fameuse musique, qu'est le blues. Et puis c'est là où ça bascule. Une fois qu'ils sont dans le bar, ça vire à l'horreur, au film d'horreur, puisqu'il va y avoir des histoires de vampires.
Ça fait beaucoup penser à un film de Quentin Tarantino, si je ne me plante pas, c'est Une nuit en enfer.
Oui. Ah oui. Ah oui. Alors, oui, c'est un peu ça, sauf que, oui, mais dans Nuit en enfer, c'est les tenanciers de la boîte qui sont tous nés. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais. C'est-à-dire que les clients qui arrivent là, ben, ne repartent plus.
Là, c'est l'inverse. C'est les personnes qui sont à l'extérieur. Voilà. Et c'est très beau.
Ils s'enferment
parce
dans le bar et
ils sont pris d'assaut.
Il y a un côté très fort avec la musique.
Oui.
La musique gospel, un peu avec ce jeune, avec sa guitare et ce tourbillon de la caméra, et à l'extérieur avec une timbre plus irlandaise, avec ce monstre, ce vampire.
Voilà, la partition musicale est remarquable.
Oui. Extraordinaire. Et le dernier?
Eh ben, le dernier, c'est une bataille après l'autre.
Oui, une bataille après l'autre qui est ressortie vainqueur des Golden Globes. Hein. Quatre récompenses, dont meilleur réalisateur pour Paul Thomas Anderson, meilleur scénario aussi. Mais Leonardo DiCaprio n'a pas eu le Golden Globe du meilleur acteur. C'est Timothée Chalamet.
On n'a pas vu le film encore, Marty Suprême, puisqu'il
on aura l'occasion de le voir avant les Oscars. Mm-hmm. Puisque le film sort le 18 février.
C'est ça.
En France, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres films que ceux dont on vient de parler qui sont restés des films étrangers, bien sûr, internationaux, qui vous ont marqué cette année, Laurent ?
Ah oui, moi, c'est le film brésilien de Walter Salles, hein, Je suis toujours là.
Oui.
Nous sommes sous la dictature au Brésil. Un père de famille est emmené par la police et sa famille va tout faire pour essayer de comprendre ce qui se passe déjà, parce qu'on leur dit rien, et essayer de le libérer. Et on est vraiment avec cette famille. Il y a la mère, il y a deux jeunes filles et un garçon. Et on est vraiment avec eux. Et le film se déroule sur une trentaine d'années. Il m'a bouleversé, ce film. Vraiment très très bon. Je recommande vraiment aux auditeurs, si vous ne l'avez pas vu, Je suis toujours là, de Walter Salles.
Et puis, puisqu'on parle de films brésiliens, il y a L'Agent Secret, qui est toujours en salle.
Aussi, qui est très bon, ouais.
De Kleber Mendoza Filho. Et je ne me souviens plus du nom de l'acteur qui a eu le prix d'interprétation à Cannes et qui a eu aussi le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique. Parce que les Golden Globes donnent des prix pour les films qui sont des comédies, et une bataille après l'autre entre dans cette catégorie, puis il y a des films dramatiques, ce qui explique pourquoi Le film de Kléber Mendoza Filho a été lui aussi récompensé, mais parce que c'était aussi un film international. Vous avez autre chose à nous proposer, Joël
ou... Moi, Un parfait inconnu de James Mangold, j'ai trouvé que la plongée dans les années 60 avec John Baez, avec tous ces musiciens, Woody Guthrie, tout ça, c'était remarquablement reconstitué. On avait l'impression d'être, pour nous qui l'avons vécu, c'est notre période, c'est notre génération, on avait vraiment l'impression d'être avec Bob Dylan. D'ailleurs, nous avons partagé ça, oui. Louis-Marie, puisque nous avons assisté au concert de Bob Dylan à Toulouse.
Au Stade des Minimes.
Au Stade des Minimes, où il y avait également la journaliste de La Dépêche, Nicole Claudie. Oui. Et en fait, on était tous les trois à écouter ce concert de Bob Dylan, qui était quasiment inaudible d'ailleurs. Parce
oui,
fait,
c'était infernal. Le pire des concerts qu'on ait pu voir.
Mais d'abord, il était quasiment tout le temps en train de pivoter, donc il tournait le dos au public. Ensuite, il était quasiment inaudible. Peut-être qu'il y avait à la fois une sono qui était un peu désastreuse, celle des stades de foot et de rugby, et puis peut-être qu'ils n'y prêtaient pas trop non plus, ils ne s'y prêtaient pas au jeu. Donc voilà, c'était plus une Madeleine de Proust nostalgique d'un Bob Dylan à Toulouse que d'une qualité intrinsèque du concert.
Et vous, Vanessa ?
Eh bien moi, c'est le film Follemente de Paolo Genovese. C'est un film italien et c'est un vice-versa version adulte. J'explique, c'est deux personnes qui se rencontrent, un homme, une femme, un rendez-vous un peu avec les applications, et il se trouve que dans leur tête, eh bien, il y a quatre personnes, aussi bien pour le garçon que pour la fille, et va y avoir le romantique ou la romantique, va y avoir l'effronté, va y avoir le sexy lover d'un côté ou comme de l'autre, et franchement, qu'est-ce que c'est beau, c'est drôle, c'est frais, et puis en même temps, ça vous fait réfléchir, parce que je suppose que comme moi, des fois, vous avez une petite voix qui vous dit, non, il ne faut pas trop faire ça et autres, donc ça nous plonge vraiment, et puis c'est un film doudou, ça fait du bien. Quand tu vas pas bien, regarde Follemente, tu ressors de là avec un sourire.
C'est vrai que par les temps qui courent, un film qui nous évade, qui nous lave l'esprit, c'est pas mal. Ouais.
Ah oui.
Qui fait du bien, oui.
Eh bien, je vous propose d'écouter un extrait d'un titre qu'on peut entendre dans Une bataille après l'ordre, le film de Paul Thomas Anderson. Bon, c'est parce que j'aime Steely Dan et que c'est Steely Dan. Voilà.
Times are hard.
On laisse Steely Dan avec les personnages de ce film signé Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre. Je vous ai pas parlé du film aussi, de celui auquel je pensais aussi qui n'est pas américain. Alors le problème, c'est qu'il est en langue iranienne, mais il est français. C'est un simple accident. Alors c'est compliqué de choisir. Alors oui, je pense à ce film-là, le film de Jafar Panahi, extraordinaire, de cet homme qui reconnaît rien qu'en entendant son tortionnaire et qui va se demander si... Eh ben, il va lui faire ce qu'il lui a fait, mais pire encore, puisqu'il veut le tuer, ou pas. Voilà, c'est un film, un simple accident à découvrir. Donc, si vous ne l'avez si vous ne l'avez pas encore vu. Eh bien, je vous propose de continuer notre petit jeu. Et cette fois-ci, on va jouer avec les films français. Prêt ? La main sur le buzzer, allons-y.
Monsieur le Président de la République.
Alors, qu'en pensez-vous ?
C'est très beau. Qui en est l'architecte, Monsieur le Président ?
Vous demandez à Subilon pour le savoir.
Monsieur, vous avez remporté le concours de la défense.
Boum.
Qu'avez-vous construit dans votre carrière ?
Ma maison et 4 églises.
Et que pensez-vous des architectes français ?
Je le trouve inhibé.
Tu veux juste t'acharner et mourir ici, dans cette cuisine ?
T'as qu'à rester nous aider.
Mais j'ai une vie, putain, papa !
Oh bah ça, on avait bien compris, hein.
Je sais pas comment tu fais, parce que moi, je le trouve particulièrement insupportable.
Mais moi aussi, je le trouve insupportable.
Qui dit crise ?
Dit monde, dit famine, dit tiens.
Qui dit amour ?
Dit les gosses, dit toujours et dit divorce.
Comment t'as su que tu préférais les femmes ?
Je suis tombée amoureuse, en fait, d'une de mes copines.
Est quelque chose de prohibé. L'instinct de l'homme, c'est d'être attiré par les femmes, et l'instinct des femmes, c'est d'être attiré par les hommes.
T'es sûr de vouloir le faire, ce coup ? Les stands de hot dog, oui, mais là, on parle d'un train.
Les copains vont être trop contents ce soir.
Mon flair me dit que c'est un voleur.
Hein ? Moi, un voleur ?
Tu plaisantes, Rex ?
D'où tu connais mon nom ?
Bah, chez un flic, il y a 9 chances sur 10 qui s'appelle Rex.
Mais quand même, c'est rigolo.
Et oui, quand même, c'est rigolo, avec l'accent du coin. Alors, allons-y, je vous écoute. Qui veut commencer ? Le premier, on va les faire dans l'ordre.
Ouais. Le premier, plus rien.
Peut-être qu'on nous entend l'antenne.
Le premier, vas-y. L'inconnu de l'Arche perdue.
Non, l'inconnu non, de la Grande Arche.
La Grande Arche.
Oui, non, la Grande Arche.
On l'a été retrouvée.
Elle a été retrouvée, l'Arche perdue. Grâce à Indiana Jones. Là, ça n'a rien à voir avec Indiana Jones. Cet inconnu, c'est Johann Otto von Spreckelsen qui avait gagné le concours en 1983 pour construire cette fameuse arche de la Défense.
Alors, savez-vous quel est le point commun entre deux pianos et justement l'inconnu de la Grande Arche ?
Ah ben non.
Eh bien, il y a un morceau de Bach qui est dans les communs, dans les deux films, et notamment l'architecte se met à l'orgue et joue cet air de Bach.
Oui, quand il va dans une de ses églises, d'ailleurs.
Tout à fait. Voilà, il joue cet air de Bach, qui est le même dans les deux pianos.
Stéphane de Moustier a réalisé le film. Il y a une belle distribution, à commencer par cet homme rare, Claes Bang, qui joue le rôle de Otto von Spreckelsen, gigantesque, et alors à côté de lui, c'est assez extraordinaire, parce qu'il y a Xavier Dolan. Xavier Dolan, lui, est beaucoup plus petit, et puis il y a d'autres acteurs.
Swan Arlo.
Oui, et puis Michel Faux, Mitterrand. Michel, exceptionnel.
Extraordinaire. Alors, ensuite, facile, c'est un film dans lequel on chante.
Partir un jour.
Bah oui, ouais. Le film d'Amélie Bonin, qui a réalisé une très belle performance, l'ouverture de la dernière édition du Festival de Cannes, et qui a rencontré le public. Hein. Le film a réussi un beau parcours et totalise près de 700 000 entrées, 660 000. On ne chipote plus à 40 000 à ce moment-là. Hein. L'histoire de cette Cécile, jeune femme qui est devenue chef cuisinier, elle a gagné Top Chef.
Hein, oui.
Elle a gagné Top Chef.
Et qu'elle retourne dans son village natal.
Le restaurant routier de ses parents, parce que son papa a eu une alerte cardiaque. Ouais. Mais il est infernal, le papa.
Et elle retrouve un amour d'enfance joué par Bastien Bouillon.
Raphaël. Et à noter que c'est l'adaptation en long métrage d'un court métrage qu'elle avait elle-même réalisé, oui, qui s'intitulait lui aussi Partir un jour, mais dans lequel les rôles étaient inversés. C'est-à-dire que c'est le personnage masculin, Bastien Bouillon, qui revenait, et c'était elle qui était restée. Là, elle a changé, Amélie Bonin, les positions, et c'est plutôt pas mal. Ensuite,
Et bien la petite dernière.
Bah oui, Dave Zierzi.
Pourtant, on n'a pas eu grand-chose, hein, mais...
Une belle surprise aussi que ce film. Et un beau succès aussi. C'est un...
Très belle adaptation.
Plutôt réussie.
Elle est vraiment fidèle au livre et en plus, les images, l'interprétation de Nadia Meliti qui est d'ailleurs aux révélations des Césars.
Oui.
Et qui a gagné le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes.
On va voir au César, ça sent peut-être bon. On verra les nominations bientôt, ça va arriver. Ouais. Et le dernier, on a fait local.
Falcon.
Hein.
Ouais. Falcon. Cocorico.
Falcon Express. Avec qu'est-ce que c'est le Falcon? C'est un raton laveur. C'est un filou.
Oui.
Hein? Qui veut braquer un train pour prendre la bouffe pour ses copains qui ont du mal à se nourrir. Mais il se trouve qu'il y a un blaireau rancunier qui s'appelle Hans, qui veut se venger de Rex, vous l'avez compris, qui est dans le train lui aussi. C'est l'archétype du film de train, hein, ces films, ces thrillers d'aventure où le train est lancé à grande vitesse et il faut l'arrêter avant qu'il explose, quoi. Enfin, parce que la voie va s'arrêter, quoi. Donc et ça marche. C'est oui. Benoît Daffy, oui, et Jean-Christian Tassy qui ont réalisé Falcon Express, une production, vous l'avez dit, Vanessa, de
TAT. Production.
Est-ce qu'il y a d'autres films français auxquels vous pensez et qui vous ont séduit au cours de cette année qui vient de s'écouler, là, 2025?
Alors, il y en a plusieurs, hein, de L'étranger de François Ozon, oui, à Bicyclette de Mathias Miklus. Il y a également On ira de Nia Barou. Il y en a plein. Il y a vraiment de la qualité, je trouve, au niveau des cinémas français. Il y a La femme la plus riche du monde aussi, oui, de Thierry Cliffa, qui est remarquable d'interprétation et d'intelligence. Décalé aussi, je trouve. Vie privée de Rebecca Zlotowski. Il y a vraiment Dominique Moll avec Dossier 137. Il y a vraiment de la qualité dans les... Je trouve alors, ce ne sont pas des films qui, bien évidemment, vont faire un million de spectateurs au box-office pour la plupart. Mais je trouve qu'on retrouve l'artisanat français avec vraiment des scénarios très ciselés. Le Champ des Forêts, par exemple, qui est un documentaire.
Ah, le Champ des Forêts, oui, il est sorti juste à la fin. Oui.
Voilà,
oui. Il compte pour 2025.
Tout à fait, mais ce sont des films vraiment dans des registres totalement différents, d'une grande qualité.
Vous avez Des preuves d'amour aussi.
Oui,
tout à fait.
Qui est vraiment excellent. L'ami idéal d'Alice Vial,
une belle idée qui
très,
fonctionne.
Très belle surprise.
Ouais.
Et puis moi, mon coup de cœur que j'ai attendu quand même jusqu'au 31 décembre, vraiment, et c'est vraiment le film qui m'a le plus touché, c'est Qui brille au combat de Joséphine Japy.
Oui.
C'est son premier long métrage et assez impressionnant puisqu'elle parle quand même de Bertille, sa sœur qui est handicapée, et elle brosse un portrait au moment de l'adolescence. Et Bertie est jouée incroyablement par Sarah Pichoud, qui l'interprète. Alors au début, Joséphine Japy cherchait une enfant handicapée. Mais comme sa sœur, il n'y avait pas d'interaction. Elle ne parlait pas. Et puis, elle a été vers d'autres. Mais elle n'avait pas envie de les faire régresser. Et après, elle est tombée sur Sarah Pichoud et ça fonctionne du feu de Dieu. C'est vrai que ce film est bouleversant, mais il est lumineux, parce qu'il y a ce monde de Bertille, où elle nous fait tout passer par le regard, la musique est très importante, et le rôle incroyable de Mélanie Laurent en mère courage, et qui porte toute la petite famille. Franchement, c'est un film qui m'a, oui, bouleversée, émue, touchée, et c'est aussi rempli d'espoir, et c'est un hommage à toutes ces familles qui ont un enfant handicapé, et voilà le parcours. Et c'est aussi montrer que quand t'es enfant, tu vois pas aussi la douleur et ce qu'affrontent ses parents.
En parlant d'handicap, je trouve qu'il y a aussi un très très beau film qui est Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan.
Oui,
magnifique.
Qui est aussi d'une justesse dans l'interprétation. Et je trouve que tous les rôles sont remarquables. Et aussi la dramaturgie, parce que en fait, c'est une comédie dramatique et il y a tous les ressorts d'un très bon film.
Oui. Il a très bien marché, il a fait 1,5 million et il est deuxième au classement des films français derrière Les Tuches, bien sûr.
Et il a fait la couverture des fiches de Monsieur Cinéma parce que c'est un film qu'on a beaucoup aimé à la rédaction.
Eh bien, c'est noté. Alors, on va écouter une petite musique pour se détendre. Et je suis persuadé que vous allez reconnaître d'abord la chanson, même si elle est réinterprétée, et surtout dans quel film on peut l'entendre.
Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage,
version du fameux titre Voyage, Voyage, c'est Barbara Pravi qui la réinterprète et on peut entendre ce titre dans le film d'Enya Barou. On ira puisqu'il s'agit d'un voyage, un peu particulier puisque c'est un homme et sa fille, un aide à domicile et cette dame qui veut aller de chez elle jusqu'en Suisse parce que il n'y a qu'en Suisse qu'on peut avoir le suicide assisté. Très bien vu et bien fait, une belle distribution et un beau film d'Enya Barou.
Une mention particulière vraiment à Alain Vincent qui est une des grandes comédiennes françaises.
Ouais. Incontestablement, elle occupe l'écran, elle est extraordinaire. Et il y a Pierre Lottin encore
Pierre
une
Lottin,
fois.
Pierre Lottin, impressionnant. Très drôle.
Très bien.
Mais souvent toujours dans le même registre. Il faudrait qu'il. Ouais. Je trouve.
Il a un agenda très chargé, on le voit souvent.
C'est
film,
ça.
Hein.
Oui, tout à fait.
Il est d'ailleurs dans l'affaire Bojarski.
Exactement, oui.
Et avec l'accent polonais ou russe.
Oui.
Ouais, c'est ça. Alors, il est dans l'étranger aussi.
Oui.
Il est dans tous les films.
Oui, puis il est dans le film de Animal Totem de Lépine aussi, où il joue
un tout petit rôle.
Un garde du corps assez lunaire.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous propose justement d'écouter des réalisateurs qu'on a eu l'occasion de rencontrer, de films dont vous avez parlé, qui sont à signaler dans cette année 2025, à commencer par Dominique Moll pour Dossier 137, et qui revient une nouvelle fois sur le monde de la police, mais cette fois auprès de l'IGPN. Hein. C'est ça, hein, c'est,
et les bœufs carottes.
Les bœufs carottes.
Tout à fait.
Dans Dossier 137, où une enquêtrice de l'IGPN, une commandante ou une capitaine, je ne me souviens plus. Une commandante. Enquête sur un tir de LBD qui a été redoutable pour un jeune manifestant. Le policier qui a fait ça avait-il raison de le faire? Voilà la question que soulève le film. Et Dominique Moll parle de Dossier 137. C'est surtout ce qu'il voulait, c'est raconter une histoire et sans juger.
Je pense que l'envie, c'est quand même d'abord de raconter une histoire. Ça reste quand même un film de genre, une enquête policière, où le spectateur doit être pris par l'histoire. Mais l'avantage du film de genre, c'est justement qu'on peut y glisser après des thématiques et des sujets sociétaux divers et variés. Déjà, enfin, il y a une première démarche qui est de faire comprendre le fonctionnement d'une institution. En tant que citoyen, on a envie, enfin moi en tout cas en tant que citoyen, j'ai envie de comprendre comment ça marche. Même si j'avais pas fait le film, le fait de pouvoir aller à l'IGPN, de les observer, en plus que c'est censé être un outil de contrôle démocratique, donc ça concerne quand même tout le monde. Donc il y a ça, et le fait de raconter ça du point de vue d'une enquêtrice de l'IGPN, qui est policière, mais qui enquête sur des policiers, qui est en contact avec des victimes, permettait aussi de se mettre à un point de vue qui permettait davantage de montrer cette complexité.
À propos, Dominique Moll, à propos de son parti pris, celui qu'il a suivi pour bâtir son histoire et son film Dossier 137. Autre film, autre duo, À bicyclette, vous en parliez, Joël. À bicyclette, c'est un film de Mathias Mlekuz. Alors, on est entre le film de fiction et le documentaire.
Oui.
C'est une forme de docu-fiction, puisque en fait, Mathias Mlekuz veut rendre hommage à son fils qui s'est donné la mort quelques années après un voyage à vélo qu'il avait fait de La Rochelle à Istanbul. Et donc, son père, c'est-à-dire Mathias Mlekuz, reprend ce trajet, son trajet de voyage à bicyclette en compagnie de
Philippe Rebaud.
De Philippe Rebaud et de son chien. Et ils font le même parcours. Ils partent donc de La Rochelle, en fait, de l'océan, et ils vont s'en aller jusqu'à la mer Noire. Rendre hommage, et vous allez le comprendre, et il l'explique, c'est plus facile de le faire en faisant un film.
Je pense.
Non, ça c'est Dominique Moll. Revenons à Mathias Mlekuz et Philippe Rebaud.
Rendre hommage, moi, quand il me l'a proposé de rendre hommage, c'est-à-dire faire vraiment la route, je me suis dit, oui, ça, on n'y arrivera pas. Enfin, je veux bien t'accompagner dans l'hommage, mais on n'y arrivera pas. En revanche, je sais comment on peut faire un vrai hommage avec ce qu'on sait faire, c'est-à-dire on en fait un film. Mais pour autant... ça nous aura fait du bien. La suite, c'est-à-dire ce que ça devient... un film de cinéma avec des gens qui le regardent, ça, je crois pas qu'on avait anticipé du tout.
C'était surtout un film qu'on a fait pour nous. Ouais. On n'a jamais fait un film pour les autres, en fait. Très égoïstement, on l'a fait vraiment pour nous. Et la bascule, justement, d'un seul coup, de devenir un film pour les autres, elle s'est faite à Angoulême, avec beaucoup d'angoisse, parce qu'on ne savait pas du tout comment quelque chose d'aussi intime allait résonner chez les gens. Il y avait quelque chose, on pouvait se prendre des tomates, enfin, il y avait aussi quelque chose d'impudique.
Non, mais on évitait rien. On parlait, c'est ce que je ne sais plus qui disait ça, mais enfin, on disait les vrais mots, donc c'était dangereux. Hein.
À aucun moment, on s'est censuré ou on s'est dit, de toute façon, en fait, comme le film était pour nous, on était libre.
Ben voilà, vous avez la, l'explication. Vous vouliez ajouter...
Oui, je voulais juste évoquer l'oncle de. Je crois que c'est son oncle, Sadi Rebaud, qui était un comédien français de grande qualité.
Et l'oncle de Philippe.
L'oncle de Philippe Rebaud, Sadi Rebaud, qui avait fait toute une série, qui a fait beaucoup de théâtre. Et je trouve aussi très attachant ce personnage qui est Philippe Rebaud. Là aussi, c'est un ovni parmi les comédiens français. Et il est inclassable et je le trouve vraiment très attachant.
Notez que comme c'est un voyage pour rendre hommage à Youri, dans tout le film, Philippe Rebaud pédale en costard.
Oui, c'est vrai.
Il est en costard, avec une casquette informe, mais il est en costard.
Et moi, je peux vous dire quel sera le prochain film de Mathias Mlekuz avec Philippe Rebaud.
Dites-nous.
Ça va être tout. Un film où il va partir avec son autre fils, à la recherche des 500 signatures pour pouvoir se présenter comme président de la République. Je vous assure, c'est vrai.
Eh bien, on est impatients et de savoir s'il va réunir ces fameuses 500 signatures.
Et oui, si son fils va pouvoir se présenter en président de la République.
Et oui.
Eh bien, je vous propose de retrouver notre homme de loi des séries, Grégory Combe, qui va vous donner ses top pour l'année 2025.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, alors, autant j'ai été déçu
par cette année film. Je ne vais pas vous mentir, c'est une année ciné où j'ai eu de très très bons films. D'ailleurs, Little Jaffna et Lire Lolita à Téhéran, en plus au regard de l'actualité, sont deux œuvres que j'ai adorées, qui sont très très bonnes et que je vous conseille. Mais le cinéma en général ne m'a pas trop transporté cette année, alors que les séries télé, oui, et je garde un petit bonus pour la fin. Donc je vais vous faire mon top 5 de séries qui m'ont marqué et qui, pour moi, sont au firmament de la création sérielle. Alors on commence par Cobra Kai, la dernière saison. J'avais un petit peu peur, j'avais trouvé le début de la dernière saison un peu poussif, et finalement, on a un final en apothéose, on respecte toutes les codes de la saga, autant de la série que des films. Il y a de l'humour, il y a du kitsch mais assumé, il y a de l'émotion, il y a des beaux combats, et il y a surtout toujours ces valeurs de Cobra Kai, du dépassement de soi, de la camaraderie, des valeurs qu'on mettrait presque de côté et qui sont abordées de façon tellement intelligente que honnêtement nous sommes sur une œuvre d'une très grande qualité avec une ambiance années 80 mais réactualisée. Bravo, c'est de tous les revivals qu'on a eu des années 80, que ça soit autant en film qu'en série télé, Cobra Kai est le meilleur revival. L'univers Karate Kid, je n'en dis pas plus. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vu la série pour le voir, mais ça se passe 3 ans après. Donc, c'est un petit bonus, excellent, mais un petit bonus pour continuer l'univers et qui le conclut parfaitement. Alliance, série télé, cinéma, magnifiquement fait. Derrière, on a en position 4, Mayor of Kingston, série par Taylor Sheridan qu'on ne présente plus, Yellowstone notamment, avec Jeremy Renner, vous savez, Hawkeye dans Avengers, mais là, il a un rôle à sa mesure, on voit que c'est un excellent acteur. C'est une série très sombre d'une ville qui ne vit que par l'économie du crime et de sa prison, et avec Jeremy Renner qui fait le maire officieux de cette ville, à mi-chemin entre la prison, les forces de police et la pègre. C'est sombre, c'est dur, c'est noir, les personnages sont extrêmement bien écrits. On est vraiment dans quelque chose qui n'est pas manichéen. Pour moi, c'est la meilleure série de Taylor Sheridan à ce stade. Et j'adore Yellowstone, j'adore Tulsa King, mais pour moi, c'est au-dessus. En plus, c'est une série qui a annoncé que sa 5e saison, on en est à la 4, serait sa dernière. On voit très clairement que l'histoire va vers sa conclusion. Donc, on va vraiment avoir un récit complet qui va nous être déployé. Bravo, c'est excellent. Mayor of Kingston, top 4. Top 3, et je suis heureux, Louis-Marie, c'est une série française de Canal+. Et vous savez pas à quel point ça me fait du bien de dire du bien de séries Canal. Canal, ça a été les pionniers dans les séries télé de haut niveau à la française. On se rappellera de Mafiosa, on se rappellera d'Engrenage. J'en suis nostalgique que d'en parler de Louis-Marie, de la grande époque Canal, des séries télé. Et là, on a Les Sentinelles. Les Sentinelles, c'est une série sale, c'est dur, c'est sombre, c'est la guerre, c'est désespéré, c'est extrêmement bien réalisé, c'est de très haut niveau, c'est très bien joué, je vous conseille vraiment Les Sentinelles, ça fait plaisir de voir Canal à ce niveau-là. Ensuite, en top 2, Reacher saison 3, on en a déjà parlé cette année, toujours pareil, l'enquêteur Reacher qui déambule dans cette Amérique perdue, paumée, mais tellement attachante. C'est une série qui va à la fois être sombre, mais belle et drôle. Reacher en enquêteur ultra intelligent et ultra badass. C'est comme un actionneur des années 80, mais avec un meilleur scénario. Le meilleur des deux mondes, je dirais. Reacher, c'est excellent. Regardez cette série. Et après, je suis étonné. En top 1, une série Netflix. Parce que Netflix m'a beaucoup déçu cette année. Mais la meilleure série est Last Samurai Standing. On en a déjà parlé dans les chroniques. C'est une série qui adapte un livre, et c'est une sorte de son impact. Donc c'est une série à la fois divertissante, instructive, et qui va vous tenir en haleine, et qui est extrêmement bien filmée. Ça fait plaisir d'avoir des films de samouraïs, et là, en l'occurrence, une série de samouraïs de très haut niveau. Donc oui, niveau série télé, c'était une très belle année. Et je n'en oublie pas, mais je conclue évidemment, les animés japonais, où on a eu des choses formidables, et je vous en ai parlé toute cette année, et clairement, on a le film Demon Slayer qui était magnifique, Ranma un demi sur Netflix qui est le remake de du dessin animé qu'on avait au Club Dorothée, Dan Dadan, Lazarus, et je finirai par My Hero Academia, la final season, la fin. Et là aussi, encore une fois, c'est très dur de réussir sa fin sur un animé qui a duré pendant 10 ans. On a une fin qui est excellente, qui porte de belles valeurs et qui rappelle que le courage, le dépassement de soi, l'amitié, ce ne sont pas des valeurs à jeter. Donc, Louis-Marie, déçu du cinéma, heureux des séries télé, heureux des animés japonais. Finalement, j'ai un espoir, c'est que peut-être, enfin, on va arrêter de faire des œuvres sur un cahier des charges, qu'on va revenir à des valeurs humaines intéressantes et qu'on va nous raconter à nouveau de beaux récits. Je vous remercie.
C'est Takashi Omama qui signe la bande originale de Last Samurai Standing. Oui, que ce soit une série nippone-japonaise qui soit le top 1 de notre homme de loi des séries, c'est finalement pas surprenant. Je crois qu'il aime beaucoup la culture nippone et leurs séries et leurs animés.
Enfin, la meilleure série de tous les temps, ça restera Twin Peaks, que l'on peut revoir sur le site d'Arte.
Oui, voilà. Exactement, dans son intégralité.
Exactement.
Alors, Laurent, puisque vous parlez, gardez la parole.
Je garde la parole.
Et racontez-nous tout.
Allez, un petit bilan. Après une année 2024 hors norme, avec un petit truc en plus et le Comte de Monte Cristo, le cinéma en salle marque logiquement le pas en 2025. Selon le bilan annuel publié par le CNC, le Centre National du Cinéma, près de 157 millions d'entrées ont été enregistrées sur l'ensemble du territoire, soit un recul de 13,6%. Mais malgré ce tassement, la France conserve quand même sa place de premier marché cinématographique en Europe, loin devant ses voisins, une fréquentation en retrait qui est rattrapée par un solide rebond, surtout en fin d'année. Vous savez, il y a de grosses sorties toujours. Là, il y a eu Zootopie 2 ou Avatar. Globalement, peu de productions hexagonales ont généré de très gros scores, à part les tuches. Les films d'animation continuent d'être un moteur puissant. Les grosses franchises et les suites restent dominantes. Les films les plus lucratifs de 2025 au niveau mondial, c'est Nisa 2, un film d'animation chinois qui a généré plus de 2 milliards de recettes. Zootopia 2 a bien cartonné aussi, 1,4 milliard. Et Lilo et Stitch a bien cartonné aussi, 1 milliard de recettes. Côté français, sur les 10 premiers, il y a 9 films américains. Il n'y a que Les Tuches avec 3 millions. Sinon, en premier, Zootopie 6 millions, Lilo et Stitch 5 millions, Avatar 4 millions. Et F1, le film qui a bien marché quand même en France, 3 millions d'entrées. Les films français, en France, bien sûr, le premier, vous le savez, c'est God Save the Tuche, avec 3 millions d'entrées. Ma mère, Dieu est si vivant, dont on parlait tout à l'heure, 1,5 million. Un ours dans le Jura, dont on n'a pas encore parlé, de Dubosc, est troisième, avec 1,4 million. Chien 51, on n'en a pas parlé non plus avec Claude Lelouch. Non, Gilles Lelouch, pardon. 1,3 million. Et Kaamelott, le film préféré de Grégory.
Ces deux films sont des déceptions parce qu'on les attendait beaucoup plus haut.
Il a fait quand même 1 million.
Oui, mais compte tenu de ce qu'ils ont coûté, ce que les producteurs et les réalisateurs respectifs des deux films espéraient, ils sont pas arrivés à ce qu'ils voulaient.
Le film n'a pas trouvé son public.
Malgré tout, mais enfin bon, effectivement, il y a plus d'un million d'entrée.
Et en conclusion, 2005 est vu par les spécialistes comme un palier avant un rebond espéré en 2026 avec une forte programmation prévue. On attend le nouveau Spielberg, le nouveau Bradley Cooper, il y aura un Christopher Nolan, Ridley Scott et le fameux Toy Story 5 qui va sans doute cartonner. Et pour finir cette chronique, une pensée pour ceux qui nous ont quittés et qui ont fait rayonner le cinéma. Robert Redford, qui est allé murmurer à l'oreille du Seigneur, Brigitte Bardot, Rob Reiner, Lita Maori, Jackie Cario, Diane Keaton, Claudia Cardinale, Terence Stamp, Michael Madsen, Philippe Labro, Val Kilmer, Richard Chamberlain, Bertrand Blier, entre autres. Resteront donc les bons moments de cinéma.
David Lynch,
2025, David Lynch.
Oui.
Diane Keaton.
Une semaine d'intervalle avec Blier.
C'est un gros oubli.
Léa Massari, Gene Hackman.
Oui, Gene Hackman
aussi. Emily Deakin.
Oui, enfin, on ne peut pas tous les citer. Mais
David
Lynch, il aurait dû être en tête de liste, vous avez raison. Autant pour moi. Donc
non.
Restaurant donc les bons moments du cinéma dont on a parlé en début d'émission, Louis-Marie.
Je crois que ce serait préférable que tu mettes ta ceinture.
C'est le grand regret.
Vous aviez beaucoup aimé en 2025, Laurent, ces deux-là, ces deux artistes, ce folk inuit, Olé et Martika, qui interprètent Nuanek Niperput.
On avait eu droit à du rock mongol aussi.
Peut-être. L'incroyable Femme des Neiges, Sébastien Betbédé, c'est à ce moment-là qu'on pouvait entendre et les voir même interpréter ce morceau, Olé et Martika.
Et Joe Dassin, revisité par un médecin inuit.
Oui. C'est vrai. C'était assez extraordinaire. Oui. Il y a une BO dans ce film assez.
Les BO inuit.
Inuit. Alors, pour compléter un peu ce que vous disiez, Laurent, à propos des films, on a parlé des déceptions, mais il y en a quelques-uns qui ont pas, c'est même pas des déceptions, c'est carrément des gadins, hein,
des plantades.
Oui, des plantades.
Des blocs gardins.
Oui, d'accord. Oh, qu'est-ce que vous êtes fort, ce genre, ouais. Bridget Jones, folle de lui. C'est bien ramassé. Loin des scores des opus précédents qui oscillaient entre 2 et 3,4 millions. Là, elle est à peine à 842 000 entrées. On parle de la France, hein, bien sûr. Autre gadin retentissant, c'est L'homme qui rétrécit. Avec Jean Dujardin, seulement 265 000 entrées, c'est peu. Puis alors, il y a celui qui s'est pris carrément les pieds dans le tapis, c'est David Cronenberg. Les linceuls, pourtant il y avait Vincent Cassel et Diane Kruger au casting et il n'a pas dépassé 55 000 entrées, c'est-à-dire c'est une catastrophe. Alors notez, alors c'est sur Pure Média que j'ai trouvé ça, ils ont trouvé le score le plus faible de l'année, il revient à Eject. C'est un film d'horreur, hein, qui est sorti dans une seule salle. Et il a fait 7 spectateurs.
Ah oui, non, c'est vrai.
7 spectateurs.
Sérieux?
Oui, sérieux. Bon, il est sorti
il
dans une
éjecté,
salle.
Quoi.
Mais 7. Bon. Est-ce qu'ils étaient tous ensemble au cours de la séance ou ils sont venus séparément?
Il faut qu'ils gardent les tickets d'entrée, il va être au collector. Hein.
Oui, c'est.
C'est le ticket d'entrée. Bon.
Et alors, on parlait de surprises. Si j'arrive à retrouver mes petits fichiers, j'ai ça pour vous aussi, Laurent. Vous allez reconnaître tranquillement. Laissez-les arriver.
Thank you.
Vous les avez reconnus, c'est The You, le seul groupe de métal mongol qui vient d'Oulan-Bator et qu'on peut entendre dans le film de Dan Trachtenberg, Predator Badlands. Il fallait un groupe mongol pour un film
comme
ça.
On dirait qu'ils font le haka un peu.
Oui,
Wolf Totem.
Voilà. Alors, il n'y aura pas les films des auditeurs, les coups de cœur des auditeurs, parce qu'on a besoin que vous nous les envoyez. On vous laisse le temps jusqu'à la fin du mois pour le faire. 5 films. cinéma@radioprésence.com ou sur le site de l'ouvreuse, sur la page de l'ouvreuse Facebook ou celle de la radio. Vous avez tout le loisir de nous laisser vos 5 films de l'année et ce sera pour la dernière émission de l'année. On vous dévoilera tout. Et puis, après The You, pour nous amener jusqu'à la conclusion de l'émission, puisque le temps tourne, vous nous excuserez de ces quelques petites coupures qui étaient indépendantes de notre bonne volonté. J'ai une surprise pour Joël. Hein, ah. Joël, mais oui, ah. Oui, oh, pas vraiment une surprise, mais ça va vous faire plaisir, en principe.
Putting me on. God said no. Abe said what? God said you can do what you want, Abe, but the next time you see me coming, you better run. Well, Abe said,
vous l'avez reconnu, c'est le fameux Highway 61 Revisited de Bob Dylan, mais là interprété par Timothée Chalamet.
Et c'est pour ça qu'il est audible.
Avec le fameux mirliton là, vous savez, oui. ce soufflet de fête. Voilà, merci Vanessa Archambault. On vous retrouve sur Esprit Média, Radio Esprit Occitanie. Je vais y arriver. Joël, les fiches de Monsieur Nima Cinéma et salut Laurent et
présence.
Bonjour, c'est Jérôme Debardis. Chaque semaine, plongez dans l'univers des garanties et des protections qui influencent notre vie quotidienne. Je vous